La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Ça se fait des signes. Je sais pas ce qui se passe.
Ah, on a retrouvé nos siffleurs.
De retour dans la midinale. Alors, avant de laisser la parole à Thibaut qui va nous parler du temps des forêts et de l'industrialisation des forêts, c'est ça, hein ? Juste, je reviens sur la musique qu'on a écoutée avant le générique. C'est la bande-son de Affreux, sale et méchant. Voilà, c'est un super film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est vachement bien. J'en profite pour faire mon auto-promotion demain soir. Écoutez Radio Piquet à 21h. Le bruit et la fureur, ce sera sur l'Italie. Et voilà.
C'était l'agenda en avance de Nico.
C'est à moi du coup. Alors moi je vais vous parler des forêts. On a pas mal parlé des forêts pendant notamment de la forêt amazonienne pour les incendies et de du désastre de la gestion capitaliste de la forêt au Brésil. Mais on peut se poser aussi la question de à quoi ça ressemble une forêt en France ou en Europe. Et du coup je vais vous parler un peu d'un documentaire qui s'appelle Le Temps des forêts de François-Xavier Drouet et qui nous explique tout ça. Donc déjà on va écouter un premier extrait qui explique un peu à quoi ça ressemble une forêt en France.
Ben, tu vois ici on est au beau milieu d'une plantation monotype, c'est-à-dire que c'est un seul type d'arbre qui a été planté il y a environ 20-25 ans. Donc c'est ce qu'on a vu, ces arbres en ligne. Donc on a un arbre, on fait des lignes, des rangées d'arbres, un arbre tous les 3 mètres, ce qui fait environ 1000 arbres à l'hectare. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? La question se pose, hein. C'est bien une plantation d'arbres. Si on tend l'oreille, t'entends les oiseaux, toi? Pas d'oiseaux. Si on regarde le sol, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est, dans ce cas-là, ce sont des épicéas, c'est d'avoir 1000 épicéas à l'hectare. Et on va appeler ça une forêt. Ça n'a pas du tout les attributs d'une forêt. Si je regarde le sol, j'ai des aiguilles d'épicéas. Si je creuse, j'ai plusieurs années d'aiguilles empilées les unes sur les autres. Elles ne se sont pas transformées, ça ne fait pas de l'humus. Pour que ça se transforme, il faudrait qu'il y ait d'autres types d'arbres et que les feuilles se mélangent au niveau du sol. Donc ben là, on ne recycle pas le matériau. C'est-à-dire que l'arbre, il pompe dans le sol, il envoie ses aiguilles, elles restent là. Elles restent là et il ne se passe rien. Pas de vie. Si on creuse, on ne va pas trouver de lombric ici. Il n'y a rien.
Donc en fait, on a une gestion de... Une gestion, c'est le mot, de la forêt qui ressemble beaucoup à la monoculture, à la culture intensive. Et du coup, on va avoir qu'une seule espèce sur des hectares et des hectares, avec plus de vie. Et une fois que les arbres auront atteint une maturité souhaitée, donc on va être autour des 40-45 ans, on fait ce qu'on appelle une coupe rase ou une coupe à blanc, c'est-à-dire qu'on rase toute une parcelle complète de la forêt. Donc c'est des grosses machines qu'on appelle des abatteuses, qui font 15-20 tonnes, qui arrivent, qui chopent l'arbre, le découpent et enlèvent les branches en quelques secondes, et qui font ça en chaîne. Une fois qu'on a fait une coupe rase sur plusieurs hectares, il y a une machine qui va venir complètement dessoucher les arbres, arracher toutes les racines, les foutre de côté, quoi, et labourer pour préparer les plantations suivantes. Donc ce qui se passe, c'est comme dans n'importe quel champ, avec la flotte et avec le poids des machines, on dégage toute la couche supérieure dans laquelle fertile de la terre, et du coup on se retrouve avec une terre complètement morte. Et dans ce cas-là, ça suppose, pour pouvoir refaire pousser l'or résineux, de foutre de l'engrais. et de foutre des insecticides, puisque il n'y a plus que ça à bouffer, quoi, les arbres, vu que tout le reste est mort. Et donc, il faut mettre des insecticides, des fongicides et tout, enfin, tous les pesticides qu'on retrouve dans l'agriculture. À la différence près, c'est que comme c'est pas un produit alimentaire, les normes sont beaucoup moins restrictives. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore plus de pesticides dans les forêts que dans les champs.
Je peux rajouter un truc ?
Ouais.
Parce que j'ai vu le documentaire de Le Temps des Forêts, qui est vraiment très très bien. L'extrait qu'on a entendu là, c'est un forestier de métier qui a une vision plutôt écologique, quoi. Il essaie de défendre justement la forêt dans sa globalité. Là, il parle du massif qui se trouve au plateau de Mille Vaches. Mais après, le documentaire, il va montrer aussi ce qui se passe dans le Morvan, ce qui se passe dans les Landes et ce qui se passe dans le massif à l'est des Vosges. Donc, comme a dit Thibault, hein, voilà, c'est une espèce d'industrie très, très violente sur les réserves de bois. Et bien, je voulais juste rajouter sur... il parle d'épicéa et d'épineux. En fait, depuis des années, dans la filière du bois, on a importé des États-Unis ce qu'on appelle le Douglas, mais aussi l'épicéa. Et soi-disant, en fait, le Douglas, donc comme tu as dit, en fait, ça pousse maintenant en 30-40 ans, on a des arbres tout droit, vite exploitables. C'est pas comme les feuillus qu'il y a en Europe, le chêne, le châtaignier. Là, c'est vraiment fait pour l'exploitation. Et en fait, le pire, c'est que la culture du Douglas est présentée comme écolo, puisque soi-disant le Douglas, c'est un bois, on n'a pas besoin de le traiter, on n'a pas besoin de le protéger pour après sa transformation pour la charpente. Donc en fait, c'est ça qui est hallucinant, c'est que on cultive en monoculture des essences qui défoncent les sols. Mais ça nous est présenté comme de l'éco-construction après dans la filière. Voilà, c'est complètement aberrant.
En sachant qu'ils expliquent aussi qu'il y a une énorme partie du Douglas qui part en bois de palette.
Ouais.
C'est-à-dire que même pas ils en servent pour la charpente, c'est juste du jetable, c'est pour pouvoir transporter les marchandises une fois et le balancer derrière. Comme tu dis, ouais, donc là c'était le Douglas sur le plateau des Mille Vaches. Il y a aussi le pin des Landes. Et donc, on peut se demander un peu à quoi ça ressemble un forestier ou quelqu'un qui gère la forêt. Et dans le reportage, c'est ce qu'on va entendre après. Donc, on a quelqu'un une entreprise qui gère une forêt. Donc là, on a quelqu'un en costard, hein, au milieu d'une plantation avec des gens qui viennent planter. On entend une espèce de clic, c'est une espèce de manche qui leur permet de planter à la chaîne les arbres. Donc là, on va voir le deuxième extrait où on est dans les Landes de Gascogne.
Ici, vous vous trouvez donc dans le massif des Landes de Gascogne, qui est un massif avec un certain nombre de particularités. Donc, qui est lié d'abord à son sol, hein, puisqu'on est sur principalement du sable, hein, et à son climat. Et donc à la présence depuis maintenant près de 150 ans d'une sylviculture extrêmement élaborée et qu'on qualifie d'intensive, dans le bon côté d'intensive, du pin maritime. Pin maritime qui était une essence locale, qui existait hein, avant la mise en œuvre de cette sylviculture, mais qui a été développée par une volonté à l'époque de l'État, hein, de Napoléon III, de développer la mise en valeur de ces terrains qui étaient faibles, qui étaient mal drainés, qui étaient mal valorisés par une politique de reboisement importante et qui donne aujourd'hui un massif d'un million d'hectares de pin maritime qui est un des massifs les plus productifs d'Europe.
Donc là, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et il nous parle dans cet extrait de reforestation, finalement, que en exploitant ces terres, c'est une valorisation, puisque finalement, on vient reforester. On ne participe pas finalement à la déforestation, quoi. C'est les autres qui font la déforestation. Et en France, c'est vrai, la quantité d'arbres a énormément augmenté. Et là, je vais vous lire un petit extrait pour illustrer ça, de « Être forêt, habiter des territoires en lutte ». De Jean-Baptiste Vidalou, qui parle de la déforestation, ce que c'est en France. Lorsqu'on parle de déforestation aujourd'hui, en tout cas en France, c'est bien plutôt à toutes ces mesures historiques d'aménagement des forêts qu'il faut penser, de la fin du XVIIe à la fin du XIXe siècle, avec ce paradoxe que, si les surfaces de bois augmentent globalement en France, dans le même temps la forêt recule. Plus l'État s'occupera de forêts homogénéisées par des plantations de résineux, ou volontairement laissées en friche, plus il en aura le contrôle territorial et ses ingénieurs des eaux et forêts le monopole du savoir. Plus les chaînes d'approvisionnement augmenteront pour la filière bois, plus les forêts se transformeront en boisement industriel géré par un pouvoir nécessairement logistique. Mais un champ d'arbres n'est pas une forêt, pas moins qu'une métropole n'est une ville. Dans l'histoire de la civilisation, ce sont bien les forêts et leurs habitants, en Europe comme dans le nouveau monde colonisé, qui ont été, physiquement, les premiers à faire l'expérience de ce contrôle systématique. Un contrôle qui cache une haine originelle contre tout ce qui apparaît trop anomique, irrationnel, enchevêtré, touffu, chaotique, obscur, hybride, finalement trop singulier. Et du coup, je trouvais ça intéressant de remettre dans le contexte de... finalement, d'une certaine façon, même si on augmente la surface de bois, en Europe aussi, on déforeste. Et c'est pas seulement en Amazonie, et aussi on fait de la merde, et aussi on continue à défoncer complètement l'environnement. Une des choses dont il parle un petit peu dans le documentaire, mais qui est surtout discuté dans Être Forêt, c'est... comme tu disais, ils se vendent pour le Douglas de faire quelque chose d'écologique, mais il y a aussi pour tout ce qui va être les forêts où ils vont pas faire de la monoculture, mais ils vont être plusieurs essences, et ils vont s'en servir pour faire des palettes ou des granulés pour faire de la chaleur. Et là, en fait, ils expliquent que c'est exactement la même gestion. On fait pousser, à la différence de la monoculture, plusieurs essences, mais là, on va venir pareil avec des énormes machines pour les découper. On va juste pas retirer les branches, on les pose en vrac. Et là, c'est une broyeuse, une énorme machine broyeuse qui vient et qui vient défoncer le bois pour en faire des copeaux qui vont permettre d'être cramés plus tard. Mais ça repose sur le même principe d'utiliser des engrais, des pesticides et de défoncer les sols à chaque fois qu'on vient intervenir. Pour terminer là-dessus, j'avais un dernier petit extrait que je trouve assez parlant. Donc là, on va entendre quelqu'un, pareil, on est toujours dans les Landes de Gascogne. C'est un propriétaire de forêt et qui va nous parler, qui parle un peu du fait qu'il n'y ait pas d'oiseaux, qu'on n'entende plus d'oiseaux dans ces forêts qui sont complètement rectilignes. Où lui va même avant expliquer qu'il se sent comme un général d'armée quand il est dans sa forêt, quoi, de voir tous ces beaux arbres alignés. Tu peux le passer.
Alors, une chose, on n'a quasiment pas d'arbres morts. Ce qui fait que les oiseaux n'ont pas de quoi nicher. Et ça, c'est écologiquement, on écrase parce que comme ils n'ont pas de quoi nicher, eh bien, il n'y en a pas. À cette heure-ci, vous allez me dire qu'il fait trop chaud. De toute façon, ils seraient allés dormir à l'ombre quelque part par là. Là, il n'y en a pas. Alors, il y a une technique qui s'appelle ProSilva. Il faut qu'il y ait à peu près 4 à 5 arbres à l'hectare qui soient morts et dans lequel les oiseaux font leur nid. Et ça se développe comme ça, harmonieusement, la nature et les animaux.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est théoriquement idéal, mais économiquement, ça ne l'est pas.
Donc, ils sont complètement conscients de détruire complètement l'harmonie de la nature, mais... C'est pas économiquement viable de laisser faire la nature, donc on la détruit consciemment.
Ouais, moi je peux rajouter un truc. Là, l'extrait il est hallucinant parce que ce type-là, là, donc qui est un gestionnaire de forêt dans les Landes, on a l'impression qu'au début là de ce qu'on entend, il peut regretter l'absence d'oiseaux, mais en fait pas du tout, pas du tout. Il dit, on va laisser quelques arbres morts, on va créer une espèce de petite surface pour les oiseaux. Sa dernière phrase, c'est, mais en fait, c'est économiquement pas viable. Il en a rien à foutre, en fait, des oiseaux. Bon, il fait semblant d'avoir une petite sensibilité écologique. Mais ce film, l'étang des forêts, après, ils vont du côté de l'Est, là, et c'est hallucinant aussi. Parce qu'il y a un truc aussi qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'en fait, la filière du bois, la filière forestière, il y a des gens en lutte. Il y a des gens en lutte depuis des années sur comment est géré le bois, comment sont gérées les forêts. Donc, comme on a vu, comme tu as dit, comme on a entendu, c'est devenu une gestion industrielle. Voilà. Les arbres sont vus comme une ressource à exploiter, puis on s'en fout après de l'écosystème, etc. Il y a eu un gros mouvement il y a quelques années on n'a pas du tout entendu parler. Et en fait, les travailleurs qui bossent depuis des années et qui avaient une conscience beaucoup plus globale en fait de ce que ça voulait dire s'occuper d'une forêt, donc respecter l'écosystème, respecter les animaux, respecter les plantes, etc., ils se font défoncer depuis des années. Regardez ce film parce qu'il finit sur un témoignage aussi d'un forestier à l'est dans la forêt des Vosges qui est poignant, quoi. Il est pris dans la contradiction de continuer son métier avec des nouvelles normes politiques et économiques complètement folles. Et il finit par dire, moi j'essaye de faire mon métier toujours avec mes valeurs qui jusqu'ici a fait que j'aime ce métier-là, mais il est pris dans une contradiction de la transformation de son cœur même du métier. C'est assez incroyable. Bon, je pense qu'il faut arriver à se mettre en lien aussi avec cette filière-là, de ce que vivent les gens, les forestiers, mais après aussi les scieurs. C'est catastrophique ce qui se passe au niveau des scieries. En fait, il y a une concentration de plus en plus sur quelques grosses scieries qui font que de la transformation pour l'export, souvent, sur des produits vraiment pourris. Bon, voilà, c'est vraiment catastrophique, quoi.
Mais beaucoup de témoignages qui sont des gens de l'ONF qui expliquent, comme tu dis, le changement de leur métier. Mais ce qui est pas mal dans Être forêt de Vidalou, c'est que lui, il rappelle que la gestion de la forêt, ça a toujours été le contrôle de la population, quoi. Et que l'État n'a jamais aimé les forêts. Et ça, c'est de base, même l'ONF, son but, ça reste de l'exploiter et de la contrôler, quoi. Et même si leur métier a changé, c'est de base foireux, quoi. Et c'est de base, ils avaient déjà bien avant commencé à la détruire. Mais c'est juste que là, c'est passé dans le mode capitaliste où là les gens souffrent plus, quoi. Mais déjà de base c'est de la merde, quoi. Il faut bien assez s'en rendre compte, quoi.
Ouais, non, mais de toute façon de base il y avait pas de politique vraiment d'exploitation, quoi. C'est sous Napoléon III qu'on a commencé à se poser la question comment gérer les forêts.
Il y avait
une culture locale où les populations vivaient plus avec des pratiques qui ont complètement disparu sur comment on allait se nourrir grâce aux forêts, comment on prenait du bois pour se chauffer, etc., qui a complètement été écrasé, quoi. C'est lié aussi à des questions comme ça. Alors bien sûr, l'ONF fait de la merde, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait encore un semblant de service public qui est de plus en plus écrasé là depuis les dernières années, quoi. Après, je dis pas que l'ONF faisait bien les choses, hein. Ça, voilà, il y a à questionner aussi ce qu'ils ont fait, quoi. Mais en fait, c'est un sujet qui est assez peu débattu, hein, dans l'espace public. Comment sont gérées les forêts, comment on change les métiers liés à tout ça. Bon, ce documentaire, il a le mérite de faire la lumière là-dessus, plus le bouquin que tu as dit. Ouais. Et juste ce documentaire, il est dans le réseau des bibliothèques, quoi, des médiathèques de Brest.
C'est bon pour moi.
Ok. Nico, tu avais préparé aussi des extraits d'une émission que tu as écoutée sur Fréquence Paris Pluriel, où on entend Corinne...
Ouais, alors c'est lié à ces questions environnementales. Alors juste pour présenter, en fait, donc c'est un extrait d'une émission qui est passée sur Fréquence Paris Pluriel à la fin du mois d'août et qui revient sur une discussion qui avait eu lieu entre Corinne Morel-Darleux. Donc c'est une femme politique, voilà. C'est une discussion avec Émilie H., une philosophe. Et en fait, ce qui est intéressant, on va entendre Corinne Morel-Darleux qui essaye de critiquer en fait tous les discours qui sont du ce qu'on entend sur théorie de l'effondrement, etc. Elle repolitise les choses. Et voilà, on va écouter, puis on va en discuter un petit peu.
En fait, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que là où en réalité la situation devrait appeler à une analyse un peu profonde des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui dans cette situation de dérèglement climatique, d'extinction de la biodiversité, d'inégalité sociale, etc., au lieu d'avoir cette analyse vraiment des racines du problème, hein, c'est-à-dire une analyse radicale, étymologiquement, on a des pouvoirs publics, un certain nombre de grands médias et de pouvoirs aussi économiques qui essayent effectivement de faire passer un récit qui, là, pour le coup, est un récit au sens vraiment de la fable et de l'histoire, qui consiste à dire, en gros, que tout ça, peut être aménagé à la marge. Si tout le monde y met un peu du sien, c'est le fameux couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents, tous ces petits gestes individuels. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas les avoir, ces petits gestes individuels, mais il faut les avoir en sachant quelle est leur portée et quelle est leur limite. Si on les adopte en se disant qu'on est révolutionnaire en le faisant et que c'est ça qui va bouleverser le système, je pense qu'on se trompe. Par contre, il faut le faire quand même, mais juste par éthique personnelle, j'ai envie de dire. Mais du coup, la difficulté et le danger de ce discours, c'est de faire croire que, en fait, tout peut continuer comme avant si les individus changent leur comportement, leur manière de consommer, alors qu'en réalité, voilà, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'écologie n'est pas compatible avec le système capitaliste, pas plus d'ailleurs que l'égalité sociale et l'égalité des genres, etc., etc. Et donc, le risque, c'est de rester à la surface des choses, et donc, en réalité, de ne rien régler, et donc de continuer à aller vers le mur.
Donc voilà, moi je trouve son discours intéressant. Après, je pense qu'on reviendra sur ces questions-là, sur théorie de l'effondrement, etc., qui sont très à la mode là depuis un certain temps, mais en fait qui entretiennent une espèce de confusion qui ramène les questions écologiques à des questions individuelles, qui ramène à une espèce de discours, de récit qu'elle nous dit, en fait, c'est l'opportunité peut-être de changer de mode de vie. Mais en fait, elle, ce qu'elle pointe du doigt là dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on ne creuse pas après les questions politiques, on ne parle jamais de capitalisme, on ne parle jamais de société productiviste, industrielle, qui fait qu'en fait, on en est là, quoi. Donc, on reviendra là-dessus, on creusera la question. En tout cas, moi, personnellement, j'ai envie de revenir sur ces discours là de l'effondrement, etc., qui est une manière parfois de ne pas politiser les vrais enjeux derrière.
Ouais, ou de donner l'impression que c'est inéluctable dans l'histoire de l'être humain, alors que c'est bien le produit d'une certaine histoire et de certains choix qui ont été faits, et pas quelque chose comme ça, que en fait le progrès nous amènerait forcément à ce genre de situation.
Exactement, ouais.
Il y avait un deuxième extrait, non ?
On va pas l'écouter, est-ce que j'ai pas assez préparé là ? Je me souviens plus de ce qui est dit. Du coup, ce sera pour une prochaine fois.
Et on va faire une pause musicale en attendant pour réfléchir à tout ça.
Allez.
Qu'est-ce que on va écouter ? On va écouter Sushila Raman pour commencer, et puis un autre morceau et on revient. À tout à l'heure.
वयनों रुमंदिरों करे सदा जब भी अलावे शरवण भवयनों रुमंदिरों करे सदा जब भी Thank you.
கிடந்த உரல் பிறவி பிணியே தீர்க்கும் மாய அகல பேரன்பும் நெறியும் சேர்க்கும் மண்மிசை கிடந்த உரல் பிறவி பிணியே தீர்க்கும் மாய அகல பேரன்பும் நெறியும் சேர்க்கும் தன்மதி நிகர்குடே ஷட்ஷர பவன ஷண்முக பிரியா ஷட் அக்ஷர பவன ஷரவண பவயனோ திருமந்திரம் தனை சத்த ஜவியனா